Bonjour et bienvenue dans le grand face-à-face de France Inter. Au sommaire de l'émission jusqu'à 13h, le duel Natacha Polony-Gilles Finkelstein. Et puis le débat du samedi, de quoi Trump est-il le nom? Et si, plus qu'un symbole, le président américain était le symptôme d'une disparition de la politique, du triomphe d'une certaine forme de capitalisme qui dépasserait très largement les frontières des États-Unis? C'est la thèse qui est au cœur d'un essai que publie le philosophe Alain Badiou. Il y critique les démocratie contemporaine, il appelle à un renouveau de l'idée communiste. Rendez-vous donc avec Alain Badiou pour en débattre dans une vingtaine de minutes.
France Inter, le grand face-à-face. Ali Badou.
Le grand face-à-face avec la directrice de Marianne, Natacha Polony, et le directeur de la Fondation Jean Jaurès, Gilles Finkelstein. Bonjour les amis.
Bonjour. Bonjour.
Heureux de vous retrouver et on va reprendre le fil de l'actualité de la semaine en commençant avec ça.
Je sais aussi le sacrifice que ça représente, l'engagement que ça suppose. J'ai suffisamment montré, y compris encore récemment, que le problème, c'est pas de se mettre en avant, parce que c'est là en plus où on prend tous les coups, mais qu'en revanche, c'est que quelqu'un puisse émerger dans une dynamique collective. Je ne sais pas si ça sera moi. J'y contribuerai de toutes mes forces. Et je soutiendrai celui ou celle qui sera la mieux placée. Si c'est moi qui suis la mieux placée, je serai prête.
Ségolène Royal qui ne s'est donc pas laissée abattre par la fin de sa mission d'ambassadrice des pôles, Gilles Finkelstein. Que faut-il retenir de cette séquence-là et de cette quasi-déclaration de candidature à la présidentielle de l'ancienne candidate à la présidentielle?
Écoutez, je crois deux choses. D'abord, c'est une décision logique ou qui a sa logique. Je parle de la révocation de Ségolène Royal. Elle a une logique juridique. Le poste d'ambassadeur est un des postes à discrétion du gouvernement. Il a le choix de nommer, il a le choix de révoquer. C'est le symbole du primat du politique sur la haute fonction publique. Ça a la logique, je dirais, de la logique. Eh ben, Emmanuel Macron a pris le risque de nommer Ségolène Royal. Ségolène Royal a pris son risque en critiquant de manière répétée et virulente le gouvernement, allant sans doute au-delà du devoir de réserve, d'autant plus élevé que la fonction que vous occupez est éminente. Donc il y a aussi cette
logique. Elle prétend que le devoir de réserve a été particulièrement respecté.
Cette logique de la logique. J'ajoute un dernier élément, ça a une logique, je dirais, politique ou électorale, puisque ce qui était en jeu, c'était aussi l'autorité du gouvernement, et que donc, a fortiori pour l'électorat, qui est aujourd'hui l'électorat d'Emmanuel Macron, c'était des éléments importants. Donc ça a une logique. Et en même temps, et c'est ça qui est intéressant, c'est un choix qui est un choix risqué, on vient de le voir, on redonne une liberté de parole à Ségolène Royal, dont le moins que l'on puisse dire est qu'elle en avait déjà, qu'elle l'usait déjà assez facilement. On contribue à son statut de victime, puisque elle va pouvoir dire que c'est précisément parce que ce gouvernement est un gouvernement autoritaire qui ne supporte pas la contradiction qu'elle a été remerciée. Elle demeure une des personnalités à gauche les plus populaires et elle a un positionnement, et c'est ça qui n'est pas inintéressant, qui est assez dans l'air du temps. Elle est à la fois la dimension sociale, les milieux populaires, la question écologique, un positionnement anti-système. Donc, il y a les deux. Sans doute c'est logique et en même temps c'est risqué. À court terme, il y a peut-être un avantage. À moyen terme, il y a sans doute un risque.
Natacha.
Alors, je souscris à peu près tout jusqu'au moment où on parle de positionnement anti-système de la part de Ségolène Royal. En revanche, je retiens davantage le terme « air du temps ». Et c'est là qu'il y a quelque chose d'assez intéressant. Alors, premier point, la question du devoir de réserve. Il est vrai que Michel Rocard, en son temps, avait vertement critiqué la politique de Nicolas Sarkozy alors qu'il était lui-même ambassadeur des pôles. Pour autant, Michel Rocard et Ségolène Royal ne sont pas exactement sur le même plan et ils ne procèdent pas exactement de la même manière. Ségolène Royal, pour sa part, avait des propos beaucoup plus amènes sur Emmanuel Macron quand elle espérait un poste de ministre. Et c'est toute la différence. Et c'est pour ça que même si je pense que Gilles a raison sur le fait qu'il y a un positionnement à gauche, il y a un espace sur lequel Ségolène Royal pourrait se positionner parce que sur certains points elle répond aux critères, je pense qu'il y a chez elle quelque chose qui a suffisamment justement collé à l'air du temps et suivi l'air du temps pour que cela pose un énorme problème politique.
Gilles.
Alors, il est possible, c'est ça aussi peut-être le calcul d'Emmanuel Macron, parce que nul ne peut douter qu'il lui-même a pris cette décision. Il est possible qu'il considère que le momentum est passé pour Ségolène Royal, qu'après
2007.
Les échecs de 2007, les échecs à la primaire, les échecs cuisants à la primaire de 2012, et que son image est écornée parce que les positions de Ségolène Royal, notamment depuis l'élection présidentielle de 2017, ont varié à de nombreuses reprises et on peut lire ses intérêts immédiats comme étant l'élément de variation de ou ses espérances immédiates comme les éléments de variation de ses positions. Donc ça, c'est possible. D'ailleurs, Ségolène Royal, je disais tout à l'heure, est une des personnalités de gauche les plus populaires. Elle est très loin de la popularité qui était la sienne il y a 10 ans.
En revanche, on peut lui reconnaître, et c'est pour ça qu'elle avait acquis cette popularité il y a 10 ans, une intuition politique indéniable, c'est-à-dire que elle sent les choses et elle sent beaucoup plus les mouvements de fond d'une France populaire ou de classe moyenne qu'en général la gauche socialiste a totalement laissé de côté. C'est sa force, mais il ne suffit pas d'avoir une intuition, il faut derrière transformer ça en pensée politique en dehors de ses intérêts personnels, et là on en est quand même assez loin.
Le duel continue.
France Inter. Le grand face-à-face, le duel.
C'est bien d'avoir des projets qui concernent une place, mais qu'est-ce qui se passe autour? Parce qu'elle veut aussi piétoniser tout le centre de Paris, 1er, 2e, 3e, 4e arrondissement, pour finir de faire du centre de Paris un musée à ciel ouvert. Moi, je ne veux pas faire de Paris un musée. Je ne veux pas transformer Paris en Rome. Je trouve qu'une ville, ça doit vivre, que les gens doivent pouvoir y travailler.
C'était lundi dans la matinale de France Inter. Vous avez reconnu la voix de Benjamin Griveaux, candidat officiel de La République En Marche à la mairie de Paris. Et il réagissait à l'annonce de la candidature d'Anne Hidalgo. Un exemple parmi d'autres que... Quoi, Natacha? La campagne a commencé ou...
Alors, que la campagne ait commencé, c'est une certitude. Qu'elle intéresse pour l'instant les Français, ça n'est pas exactement le même problème. Après, je pense que la dimension la plus intéressante, c'est la question de la différence entre les métropoles et ce qui se passe dans tout le reste de la France. Nous avons un tropisme qui consiste à aller regarder Lyon, Bordeaux, Paris, parce que, en effet, c'est plus facile par rapport à la diversité des cas de figure, surtout dans une élection municipale où énormément de listes sans appartenance, de listes citoyennes vont surgir parce que c'est le reflet de l'idée que les partis politiques ne répondent plus aux aspirations des citoyens. En revanche, ça pose un énorme problème, en particulier à cause de la circulaire Castaner de mi-décembre sur la question justement de l'étiquetage, de la coloration des listes. C'est-à-dire qu'en gros, en dessous de 9000 habitants, eh bien, les listes ne seront pas qualifiées comme appartenant à tel ou tel courant politique. Donc,
pourquoi
en gros,
est-ce que c'est
on
un
compte
problème
pas. Ben parce que ça fait 50% des électeurs et 96% des communes. C'est quand même beaucoup. Et évidemment, ça permet d'éviter les endroits où la République En Marche n'est pas particulièrement implantée, c'est-à-dire l'ensemble de la France rurale. Mais tout de même, ça fausse le regard.
Gilles.
Oui. Alors d'abord, ça démarre vraiment maintenant. Ça fait des mois qu'on parle des municipales. Pour les Français, ça démarre maintenant, ça démarre dans les médias, mais ça démarre sur le terrain. C'est-à-dire qu'on est dans ce moment dans lequel sur tous les marchés de France, les candidats sont là, distribuent leurs tracts et les citoyens commencent à rentrer dans la campagne. Donc cela démarre vraiment maintenant, mais cela démarre seulement. Et donc, à ce stade, la seule chose que l'on peut faire, c'est d'essayer de poser les enjeux. J'en vois au moins deux. Il y a un enjeu d'abord qui est un enjeu démocratique, du test de la santé de notre démocratie. Les municipales, ce sont les élections dans lesquelles normalement la confiance, la participation sont fortes. Il va falloir regarder au-delà de la participation lors des deux tours, combien de maires vont renoncer à se présenter. Il y en avait un peu plus de 25% en 2014. On a parlé jusqu'à 50% cette fois-ci. On va savoir dans peu de temps quelle est la réalité. Il va falloir regarder combien il y a de listes uniques, une seule liste. Beaucoup de petites villes dans lesquelles il n'y aura qu'une seule liste, donc pas de choix, voire dans un certain nombre de petites communes, pas de liste du tout, pas de liste complète. Il va falloir regarder combien au final il y aura de candidats. Je citais il y a quelques émissions ce chiffre qu'il y avait 900 000, près de 1 million de candidats au total sur l'ensemble du pays, ce qui est un chiffre absolument hallucinant pour tous les observateurs étrangers. Est-ce que ça sera encore le cas? Donc ça, je crois qu'il y a ce premier enjeu qui est un enjeu démocratique, et puis il y a un deuxième enjeu qui est un enjeu politique, la question de la lisibilité des résultats, et je crois que Natacha a raison de souligner la difficulté.
Le président de la République a dit le 15 janvier
à la circulaire
que les élections municipales ne sont pas une élection nationale, donc oui, ça sera compliqué d'en tirer les leçons.
Oui, c'est ce qu'on dit généralement quand on redoute les résultats. Lorsque l'ensemble des Français votent au même moment, ça ne peut pas ne pas avoir de signification nationale, et une des interrogations, c'est ce qu'il y a une dissociation entre ce que sont les grandes forces nationales dominante aujourd'hui, le Rassemblement National et La République En Marche, et les forces locales, et ce qui verra notamment une résistance des partis traditionnels et l'émergence d'Europe Écologie.
J'ajoute une dimension essentielle, c'est aussi la démocratie à travers la construction institutionnelle. Parce que là aussi, vu depuis les métropoles, on a peut-être
non,
du mal à s'en rendre compte.
Non mais arrêtez de critiquer les gens qui vivent dans les métropoles.
Mais je ne les critique pas, je dis que
vous
je
en
dis
dites
que nous,
toujours
aujourd'hui...
du mal, mais les Parisiens,
pas
les Lyonnais, les Marseillais,
je dis que les problématiques
Natacha, sont des Français
les problématiques
comme les autres.
Ne sont pas exactement les mêmes, et que si vous allez un peu partout en province, vous vous apercevez qu'il y a un enjeu démocratique autour de la question des intercommunalités, et que c'est absolument majeur. C'est-à-dire que les intercommunalités sont en train de vider de sa substance la démocratie locale, et de déposséder les maires de leur pouvoir. Or, ça pose des problèmes. Pourquoi ? Parce que vous avez des endroits où, en fait, l'adhésion d'une intercommunalité à une entité géographique plutôt qu'à une autre peut déstabiliser entièrement un bassin de vie, peut transformer telle ou telle ville en une banlieue de la métropole. Tout ça a des enjeux très très concrets dans l'aménagement du territoire, et ça se fait à bas bruit, là aussi sans aucune réflexion, sans aucune démocratie.
Il y a malgré tout une passion pour les élections municipales chez vous deux. Il y a l'idée que c'est la démocratie la plus proche des citoyens. Il y a aussi des critiques sur le clientélisme. Ce sont les élections par excellence où se manifeste ce phénomène. Il suffit de lire le dernier livre de Philippe Pujol, prix Albert Londres, sur Marseille, où il décrit les manières dont on conquiert des populations et des électeurs en distribuant aux uns et aux autres ce dont ils auraient besoin, ce dont ils auraient envie pour l'emporter.
Indéniablement, le clientélisme a eu des conséquences absolument dramatiques dans certains endroits. Alors, Marseille est un exemple de ville massacrée par cela et par d'autres choses, mais il y a évidemment d'autres endroits. On pourrait aller regarder dans certaines banlieues où le clientélisme est tragique. Mais justement, la question est de savoir comment on revivifie cette démocratie locale, comment on fait en sorte, et on en parlait la semaine dernière avec Jean Viard, comment on fait en sorte de concevoir des espaces de vie quand vous avez des gens qui travaillent loin de l'endroit où ils vivent et qui en fait utilisent leur lieu de vie comme un dortoir et ne se sentent pas intégrés à la vie locale. C'est toute cette réflexion-là qu'il faut avoir.
France Inter. Le grand face-à-face, le duel.
Le cap symbolique des 67 millions d'habitants vient d'être franchi. Une assez faible hausse malgré tout. Dans le détail, le solde naturel, soit la différence entre les naissances et les décès, n'a jamais été aussi faible depuis 1946. 750 000 bébés sont nés en 2019. C'est tout de même 6 000 de moins qu'en 2018. Mais la baisse est beaucoup moins marquée que les 4 années précédentes.
Extrait d'un journal de France Inter, et c'était mardi dernier justement, la rédaction d'Inter réagissait au rapport de l'INSEE sur le bilan démographique de la France. Dernier bilan avec cette conclusion, la natalité continue de baisser dans notre pays pour la 5e année consécutive. Et vous vouliez l'un et l'autre revenir sur cette enquête de l'INSEE. Pourquoi, Gilles, vous voulez appeler les Français à faire des bébés?
Parce que j'ai été un peu chagriné par la lecture qui a été faite de ce rapport annuel sur l'état de la population. En gros, ce que l'on a retenu, c'était la une du Figaro même cette semaine, c'était que le nombre de naissances baissait, que c'était un drame et que la responsabilité en incombait aux politiques familiales qui ont été menées par la gauche lors du quinquennat précédent. Et je pense qu'il y a là une succession d'erreurs absolument considérables. D'abord, ce qu'il faut regarder, l'indicateur qu'il faut regarder, ce n'est pas le nombre de naissances, mais c'est l'indice de fécondité. Le nombre de naissances, il dépend évidemment du nombre de femmes qui sont en âge de procréer. L'indice de fécondité, c'est le nombre de femmes que le nombre d'enfants que chaque femme fait au cours de sa période de procréation, et c'est ça qui est important.
Puisque le taux de fécondité des Françaises reste le plus élevé de l'Union européenne.
Surtout, la situation est-elle si dramatique? Et c'est ça Il n'y a quand même pas tant de sujets sur lesquels il y a des bonnes nouvelles. Quel est le pays d'Europe dans lequel le taux de fécondité est le plus important ?
La
Pour
France.
La première fois, c'est la France. Quel est le pays dans lequel la proportion de jeunes de moins de 15 ans est le plus important dans l'Union européenne ? Après l'Espagne, c'est la France. La France est un des pays dans lesquels la population continue d'augmenter, alors qu'elle diminue, en valeur nette dans 10 pays de l'Union européenne. Enfin, et c'est ça pour moi l'élément le plus important, l'erreur est d'établir des fausses causalités. Quels sont les déterminants de la fécondité ? Ce sont des déterminants, pour l'essentiel, qui sont des déterminants culturels. Toutes les études en France et à l'étranger montrent que la question de la fiscalité n'a qu'un impact absolument marginal, voire quasiment nul, sur le nombre d'enfants. C'est la confusion entre ce qu'est une corrélation et ce qu'est une causalité, ce qu'on apprend en première année de statistique. Une corrélation, c'est quand vous avez deux événements qui suivent la même évolution. Une causalité, c'est quand vous pouvez établir un lien entre les deux.
Or, quand vous avez du sexe, on peut faire des enfants, par exemple.
Oui.
Ça, non, c'était pas ça exactement.
Un exemple, parce que vous avez un site qui fait des corrélations absurdes. J'en ai trouvé une qui est intéressante, d'un mot. Vous prenez le nombre de buts marqués en Ligue 1 depuis plusieurs années.
La comparaison est formidable.
Et les taxes collectées sur les paris hippiques. La corrélation est totale. Elle est d'autant plus forte depuis que la Bolivie a nationalisé les hydrocarbures. Eh bien, on voit bien qu'il y a une corrélation, que la causalité, évidemment, est stupide. Eh bien, c'est un peu la même chose.
Pour revenir aux problématiques de natalité et de fiscalité familiale, en effet, il n'y a pas forcément de causalité. En revanche, on peut pour autant réfléchir à la question de la fiscalité familiale, c'est-à-dire le fameux problème de savoir si cette fiscalité familiale a pour but de rétablir l'égalité entre les classes sociales ou d'établir l'égalité au sein d'une même classe sociale entre ceux qui ne font pas d'enfants et ceux qui en font et donc permettent de payer les retraites, etc., etc., et investissent pour la nation. Ça, c'est un sujet intéressant. Et autre sujet intéressant, la question du rapport entre la démographie et l'ensemble des autres problèmes qui s'offrent à nous, c'est-à-dire la question des retraites, parce que quand on entend Jean-Paul Delevoye expliquer qu'il n'y a plus de fécondité en Europe et que donc il faut une immigration de 50 millions de personnes d'ici 2040. Bon, c'est une conception qui, en effet, ne s'accorde pas avec la réalité de la France et on peut s'en réjouir. Donc, il y a plein de sujets, on n'a plus le temps, mais nous y reviendrons très certainement.
Moi, j'adore cette thématique. À suivre dans le Grand Face-à-Face, le débat avec le philosophe Alain Badiou.
Le Grand Face-à-Face sur France Inter.